ce qu'il dit de notre identité ou de la manière de la trouver. Où se trouve notre identité profonde? Qu'est-ce qui nous motive profondément dans la vie? En quoi mettons-nous notre fierté? En quoi mettons-nous notre joie? Déjà, je reviens sur la première phrase d'introduction car elle en dit beaucoup. Nous allons essayer de voir, tout à l'heure je disais, nous allons essayer de voir ce que Dieu dit de notre identité. Ce qui veut dire qu'en tant que chrétien, c'est la vie de Dieu, la vie de Jésus-Christ qui va importer le plus normalement. Si Christ nous a trouvés, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, s'il est la source de notre vie, si nous savons qu'il est la source de la vie, nous savons au plus profond de nous qu'il n'y a pas d'autre lieu que dans sa présence où nous pouvons être totalement nous-mêmes. Que si notre identité se fonde ailleurs qu'en lui, ailleurs que dans l'Éternel, dans celui qui est la vie, de celui qui, le seul qu'il a en lui-même et de qui toute vie découle, si notre identité s'appuie sur autre chose ou sur quelqu'un d'autre que sur le Seigneur, elle sera fragile. Elle dépendra des circonstances, plus ou moins favorables selon les moments de la vie. Elle n'aura pas un fondement inébranlable. En fait, si on nous demandait de se présenter qui on est, si on nous demande qui on est, c'est une question assez difficile à répondre finalement. On va répondre, si on me demande qui je suis, ben, je vais décliner mon prénom, mon nom, peut-être mon âge, puis ce que je fais dans la vie, d'où je viens. Par exemple, surtout, j'ai vécu 3 ans à Montréal, ou si je suis du sud, que je vais à Paris, il m'arrive des fois d'y aller pour mon travail, de suite les gens sont interpellés par mon accent, me demandent « tu viens de où ?» Quand j'ai vécu à Montréal, mon accent aussi s'est détourné. Quand on vit à l'étranger ou dans une région qui n'est pas la nôtre, d'où on vient va nous aider à définir notre identité aussi. On se retrouve dans nos racines. Hein? On va dire aussi si on est marié ou pas, si on a des enfants ou pas. Mais au-delà de toutes ces choses qui participent à notre identité, il ne s'agit pas de nier. Elles sont des dons de Dieu. Hein? Dieu a permis que je naisse à tel endroit ou à tel autre endroit, dans telle culture, à telle époque, avec tel parent, que je rencontre mon épouse pour mesdames leur époux, que je sois marié ou que je sois célibataire, c'est des circonstances voulues, même si on participe dans nos choix, mais c'est des circonstances voulues par Dieu. Et aussi bien le mariage que le célibat sont des vocations à vivre devant Dieu. Ouais. Tout ça fait partie de mon identité. Mais mon identité première est celle qui perdurera quand Jésus reviendra et qu'il renouvellera les cieux et la terre, ce sera mon identité d'enfant de Dieu, mon identité de racheté. Dans l'Apocalypse, à la fin, quand on arrive dans les derniers versets de l'Apocalypse, l'Apocalypse, verset, chapitre 21, verset 22, nous dit « Je ne vis aucun temple, dont ces gens qui contemplent la Nouvelle Jérusalem, je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. » Et au premier verset du chapitre 22, un peu plus loin, « Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie, limpide comme cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. » Donc c'est l'agneau qui éclaire la Nouvelle Jérusalem comme une lampe, et du trône de Dieu et de l'agneau. Cela nous rappelle que si nous passons l'éternité dans la présence glorieuse de Dieu, c'est parce que l'agneau nous a rachetés. Toute l'éternité, nous allons nous réjouir de ce que nous avons été rachetés. C'est notre identité première. Quelqu'un a payé pour nous. Quelqu'un nous donne notre identité. On n'a pas à la construire nous-mêmes. Elle nous est donnée par le Seigneur qui nous a rachetés. Tout à l'heure, il y a eu une parole sur une carte d'identité qui nous avait été donnée par grâce. Donc notre salut ne se trouve pas en nous-mêmes. Nous n'avons pas la lourde tâche de nous sauver, mais nous sommes sauvés par un autre, rachetés par un autre. C'est ce qui nous repose, qui nous permet de rentrer dans nos repos. Et dans le Nouveau Testament, il y a un apôtre qui a particulièrement mis cela en avant, ce salut par grâce, cette identité fondée sur ce que Jésus a fait pour nous. Vous avez peut-être deviné de qui je veux parler, c'est de l'apôtre Paul. Sur les 13 lettres de Paul qui nous restent, il en a sûrement écrit plus, on le sait, qu'il a écrites à des églises ou à des disciples, 5 ont été rédigées alors qu'il était en prison. Et selon Clément de Rome, à la fin du 1er siècle, d'après ce qu'il sait, il dit que Paul aurait été emprisonné 7 fois. Mais en tout cas, lorsqu'on lit ces épîtres de prison, ces épîtres de captivité, on ne voit pas quelqu'un au fond du trou. On ne voit pas qu'on on voit surtout et on lit surtout un apôtre pour qui son appartenance à Jésus-Christ est plus forte que toutes les circonstances. Par exemple, en Philémon 1:1, dont il écrit à Philémon, et il est en prison, il commence par sa lettre en disant « Moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. » Paul, prisonnier de Jésus-Christ. En Éphésiens 3:1, il dit la même chose. « Moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, pour vous les non-juifs. » Paul ne se considère pas premièrement comme prisonnier des autorités romaines. Il se cède à la main souveraine de son Seigneur. Il est prisonnier de Jésus-Christ et part de Rome. Il est prisonnier à cause de son amour pour Jésus-Christ. Et il sait que si Jésus-Christ le souhaite, il le fait sortir de prison comme il veut. Il est Seigneur. Et d'ailleurs, dans d'autres épisodes, par exemple dans Acte 16, il est à Philippe, dans la ville de Philippe, il est avec Silas. Ils sont emprisonnés. Ils se mettent à chanter les louanges du Seigneur. Le Seigneur fait sauter toutes les chaînes. Vous vous rappelez cette histoire? Que le geôlier voit ça, il veut se tuer. Parce qu'il sait que si on le voit, que les prisonniers sont échappés, il va passer un mauvais quart d'heure après. Il décide d'abréger ses jours. Et Paul lui dit non, nous sommes toujours là. Et puis le geôlier va se convertir. Et puis le Seigneur va faire libérer Paul sans problème. Il n'y aura pas de problème. Donc Paul sait que s'il est prisonnier, il est prisonnier de Jésus-Christ, de sa souveraineté. C'est en lui qu'il trouve son identité. Son identité, ce n'est pas quelqu'un qui vit au fond d'une prison dans des conditions qui ne sont peut-être pas terribles, ça dépend des moments. Il y a des moments où il a eu, il était prisonnier, mais il pouvait recevoir des visites. Mais ce n'est pas un prisonnier de l'Empire, c'est un prisonnier de Jésus-Christ. Son identité se fonde en Jésus-Christ, premièrement. Et même si on lit l'histoire de Paul dans les Actes, quand il va finir, beaucoup de ses écrits, de ses épîtres de captivité ont été écrits en prison. On se rend compte qu'avant d'arriver en prison, il y a des tas de circonstances. Il est à Césarée, on le prévient qu'il y a un guet-apens qui l'attend. Il est sauvé de ce guet-apens. Après, il part, il fait naufrage. Il est sauvé de ce naufrage. Il arrive sur l'île de Malte, il se fait piquer par une vipère. Les gens de l'île se disent « Oh là là, c'est quoi ce gars ? Il a échappé au naufrage, il se fait piquer par une vipère. » Il doit avoir fait des choses vraiment mal pour que les dieux lui en veuillent ainsi. C'est comme ça qu'il pensait. Hein. Paul, il secoue la vipère. Il continue. Pourquoi ? Paul, il n'est pas fou. Il sait qu'une vipère, c'est dangereux. Mais Dieu lui a dit, tu dois aller à Rome. S'appuyant sur cette parole de Dieu, il sait qu'il va être à Rome parce que c'est la volonté de Dieu. Donc il est prisonnier de Jésus-Christ. Il n'est pas vraiment prisonnier des Romains, même s'il est dans des prisons de Rome, évidemment. Et dans une de ses épîtres, qu'il a écrit en prison, c'est l'épître aux Philippiens qui a été écrite en prison à Rome. La plupart des spécialistes pensent qu'elle a été écrite en prison à Rome entre 60 et 63 après Jésus-Christ. Il partage avec les destinataires de la lettre la joie qu'il trouve dans l'évangile en Jésus-Christ alors qu'il se trouve en effet dans la prison. Alors même si cela reste difficile pour lui, hein, l'épreuve est là, elle est difficile, mais ne lui enlève pas la joie de sa communion avec Jésus. On va lire un passage qui montre un petit peu ce paradoxe entre la joie et l'épreuve que traverse Paul. C'est Philippiens 1, versets 17 et 18. Alors, je vais même commencer au verset 15. Donc quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie, par un esprit de rivalité. Mais d'autres annoncent le Christ d'un bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que si je suis ici, dans la prison, c'est pour défendre l'évangile. Quant au premier, ils annoncent le Christ d'un esprit de rivalité avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Donc Paul ne nie pas que sa captivité soit pénible. Mais la suite, écoutez, qu'importe après tout, de toute façon, que ce soit avec des arrière-pensées ou en toute sincérité, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Mieux encore, je continuerai à m'en réjouir. Donc, on voit que dans la vie de Paul, ce ne sont pas les épreuves ou la joie, mais la joie et les épreuves qui sont vécues simultanément, car la source de sa joie se trouve ailleurs qu'en lui-même, ailleurs que dans les circonstances de sa vie. Et quelques versets après, on voit que Paul nous dit en Philippiens 1, 21, Paul dit « Christ est ma vie », ou selon les traductions « Pour moi, la vie, c'est le Christ ». Et un peu plus loin encore, dans la même épître, au verset 26, il dit « Il encourage les Philippiens à trouver leur fierté en Jésus-Christ. Je vous le lis. Voilà. Ainsi, lorsque je serai de retour chez vous, vous aurez encore plus de raisons à cause de moi de placer votre fierté en Jésus-Christ. Donc ça aussi, ça participe de leur identité, évidemment. On revient à ce thème de l'identité, placer sa fierté en Jésus-Christ. On va obligatoirement aimer quelque chose dans la vie. Si on n'aime rien, c'est pas bon signe, quoi. C'est... Les gens qui n'aiment vraiment plus rien dans la vie, ils ont un caractère suicidaire à la fin. Et on va obligatoirement aimer quelque chose dans la vie, donner la première place à quelque chose ou à quelqu'un dans nos vies. Paul encourage les Philippiens à placer leur fierté en Jésus-Christ, pas ailleurs, pas dans autre chose. Alors on peut tout mettre dans cet ailleurs, dans cette autre chose. Ça peut être des choses évidemment qui nous semblent évidentes, comme les addictions ou les péchés qu'on sait que ce n'est pas de Dieu. Mais ça peut être aussi des choses qui sont bonnes en soi, mais qui vont prendre la place de Jésus-Christ, qui vont se placer entre nous et Jésus-Christ, entre nous et notre relation avec Jésus. Et dans cet épître aux Philippiens, Paul en parle beaucoup. Et nous allons nous arrêter particulièrement au chapitre 3 de cet épître pour voir ce que dit Paul sur quelle était son identité avant et qu'est-ce qu'elle est devenue maintenant et ce que ça a transformé dans sa vie. Voilà. Donc Philippiens 3, versets 1 à 12. Je ne sais pas si Kevin, tu peux le projeter ou... Ok. Merci. C'est une introduction au premier verset. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Là, on a enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. C'est un peu la même chose, évidemment. Hein. Dans le Seigneur, c'est tout ce qu'il a fait pour nous. Hein. Donc, on va lire. Enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant. Et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. Et en réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendrons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance en ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance en ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le huitième jour, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain. Mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection des morts. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. C'est l'expérience de Paul, mais c'est l'expérience de tout chrétien. Jésus-Christ s'est saisi de nous. Si on revient au premier verset, on voit que réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. 1 Corinthiens 1, verset 30 nous dit que Jésus-Christ a été fait sagesse, justice, sanctification, rédemption pour nous. On pourrait dire aussi qu'il est notre paix, d'autres versets le disent, notre repos, celui qui a pris notre place, notre substitut, notre frère aîné. En fait, toutes les bénédictions prévues par Dieu pour nous se trouvent en Jésus-Christ. Tous nos besoins se trouvent comblés en Jésus-Christ, en ce qu'il a fait pour nous. C'est Éphésiens nous le dit bien. Le troisième verset de la première épître aux Éphésiens nous dit: Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Donc les bénédictions de la Nouvelle Alliance, elles sont principalement spirituelles et en Christ. Elles sont à chercher dans ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas intervenir. On l'a vu dans des témoignages concrètement dans nos vies. Parce que Dieu a tout. Dieu, et il n'y a pas de domaine spirituel et de domaine matériel. C'est Dieu qui a tout créé. Dans le sens, il n'y a pas de domaine sacré et profane. Plutôt, Dieu a tout créé. Mais les bénédictions dans cette époque, en attendant que Jésus-Christ revienne et qu'il ait la vie éternelle parfaite, sans souffrance, sans douleur, sans rien, les bénédictions qui nous sont assurées et vraiment promises sont les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Tout ce que nous recherchons, tout ce que notre cœur a, quoi notre cœur aspire, se trouve dans ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour nous. Et à la suite, l'apôtre Paul va mettre en garde les Philippiens contre les judaïsants. On a les versets 2, hein. On l'a vu dans le verset 2, attendez, je reviens, à Philippiens. Prenez garde, mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. Et en réalité, si nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit, et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance en ce que l'homme produit par lui-même. Donc on voit que Paul met les Philippiens en garde contre les judaïsants qui veulent les pousser à ne pas se confier en Jésus-Christ seulement. Certains judaïsants arrivaient, dont c'était des Juifs qui avaient été touchés par l'Évangile, mais qui n'avaient pas compris que le salut se trouvait en Jésus-Christ seul et qu'il n'y avait plus à accomplir la loi. Et qu'il n'y avait pas à accomplir la loi, ok ? Et ils arrivaient, et puis finalement, ils disaient aux païens, c'est bien Jésus-Christ, mais cela ne suffit pas. Vous voulez faire partie du peuple de Dieu ? Il faut se faire circoncire, il faut pratiquer la loi. Croire en Jésus ne suffit pas. Chaque fois que vous rajoutez Jésus plus, vous n'êtes plus dans l'Évangile. C'est où tout dépend de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, ou ça va dépendre de ce que nous on apporte. Il n'y a pas de mélange possible. C'est où la voie des œuvres qui nous font gagner notre salut, ou la voie de ce que Jésus-Christ a fait, et c'est gloire à Jésus-Christ seulement, puisque tout dépend de lui. Si ça dépend ne serait-ce que d'un centième de nous, on enlève de la gloire à Dieu. C'est pour ça que dans l'Évangile, il parlait de la glorieuse grâce de Dieu. Pourquoi la grâce est glorieuse ? Parce que puisque tout est par grâce, tout revient à Dieu, toute la gloire revient à Dieu. Le verset 2, il parle même des hommes ignobles. Littéralement, dans certaines Bibles, on a Paul dit les chiens. C'était un peu une insulte que les Juifs utilisaient contre les païens. Et pourquoi Paul dit ça alors ? Parce que Paul va parler de la vraie circoncision, celle du cœur, sans laquelle la circoncision physique n'était réelle. Paul lui-même est circoncis, on voit au verset 5 qu'il est circoncis, donc c'est pas de ça qu'il parle. Mais il sait que depuis la venue de Jésus, être fidèle au Dieu d'Israël, c'est reconnaître celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, qui nous circoncit le cœur par son esprit. Vous rappelez ce que disait Jésus, « Et moi je vous baptiserai du Saint-Esprit », qui transforme nos cœurs de pierre en cœurs de chair par son esprit. C'est ce qu'annonçaient les prophètes déjà. Hein. Je transformerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair, je mettrai mes lois dans vos cœurs. Je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est ce qui s'est passé à la venue de Jésus-Christ. La circoncision n'était que le signe externe de l'alliance. De tout temps, Dieu a voulu une circoncision du cœur avant tout. Si on lit le Deutéronome, c'est clairement dit, c'est dit dans notre passage aussi, mais dans Deutéronome 10, versets 16 et 17, regardez ce que dit le Seigneur à travers la bouche de Moïse. « Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur, et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. » Okay. Et dans la nouvelle alliance, juifs et non-juifs sont appelés à se confier en Jésus-Christ seulement, et nous tous, nous sommes appelés à nous confier en Jésus-Christ seulement. C'est cela la seule circoncision qui nous est demandée. De tout temps, on s'approchait de Dieu comme le Seigneur le voulait. Du temps d'Israël, il y avait le temple et on ne s'approchait pas de Dieu comme on voulait. Tout le monde ne pouvait pas servir au temple, c'était les Lévites. Tout le monde ne pouvait pas être prêtre. Pour être grand prêtre, il fallait être de la lignée d'Aaron. On ne pouvait s'approcher qu'une fois par an au cœur du temple, au sein des saints. Si vous touchiez un cadavre, une bête morte, n'importe quoi, sans faire esprit, vous étiez impur. Vous ne pouvez pas vous approcher. Il y avait beaucoup de règles de pureté et d'impureté qui nous rappelaient qu'il y avait quelque chose d'infranchissable entre nous et Dieu qui s'appelait le péché. Et que pour que cette chose-là nous puissions entrer en communion avec Dieu, il fallait que quelqu'un paye pour ce péché. Et c'est ce dont nous parlent les sacrifices. Et ça pointait vers le sacrifice suprême qui est Jésus-Christ. Et actuellement, depuis la venue de Jésus, le seul moyen de s'approcher de Dieu, c'est par Jésus-Christ. On entend des fois, l'essentiel, c'est d'aimer Dieu, qu'importe les religions, tous les chemins mènent à Dieu. C'est exactement le contraire de ce que nous dit l'Évangile. L'Évangile dit qu'il n'y a sur la terre et sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés que par celui de Jésus-Christ. Si on veut venir à Dieu, c'est par Jésus-Christ seulement. La porte est grande ouverte, mais par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre passage. C'est vrai à notre conversion et c'est vrai tout au long de notre vie. Quand nous approchons de Dieu, c'est par Jésus-Christ. Okay ? Nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même, comme dit Paul. Voilà. Si je peux m'approcher de Dieu, c'est que Jésus-Christ a pris ma place à la croix. Ce qui venait de moi, ce que l'homme produit par lui-même, comme il est dit dans le texte, méritait la condamnation, la malédiction de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Jésus-Christ a été fait malédiction à ma place. Et lui, il était parfaitement juste. Toute sa vie méritait l'approbation et la bénédiction de Dieu. Et Dieu l'a prouvé en le ressuscitant. La résurrection de Jésus-Christ, c'est sa réhabilitation. C'est comme Dieu disait, vous l'avez ressuscité, il ne le méritait pas. Moi, je vais vous montrer que je l'approuve, je le ressuscite. Okay. Et dont sa vie méritait l'approbation et la bénédiction, et dont il les a eus, Dieu l'a ressuscité. Et cette justice, cette bénédiction que Dieu lui a donnée, qui lui devait, il me les a redonnés, il les a mis à mon compte. En fait, l'Évangile, je crois que c'est Luther, j'en suis pas sûr, mais l'Évangile, je crois que c'est Luther qui prenait cette expression, c'est un joyeux échange qui a eu lieu à la croix. Jésus-Christ a pris mon péché et m'a donné sa justice. Ce qui fait que maintenant, mon identité se trouve établie, renforcée dans le pardon et l'acceptation de Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Il y a des gens dans les évangiles, à un moment, qui demandent à Jésus qu'est-ce qu'ils doivent faire pour Dieu. C'est dans Jean 6, versets 28-29. Et que devons-nous faire, donc, ça s'adresse à Jésus, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous, lui demandèrent-ils encore. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Parce que c'est lui qui va tout accomplir pour nous. On n'a pas d'œuvre à faire pour plaire à Dieu. On a à croire en celui qui a tout accompli et en qui Dieu prenait plaisir. C'est cela l'Évangile. On n'a pas à s'accomplir, il a tout accompli pour nous. Bon, vous me direz, les problèmes de circoncision, c'était un problème de l'époque. C'est vrai qu'on ne fait plus face à notre société à ce genre de problème dans nos églises. C'était du temps de l'église de Paul. Mais on pourrait trouver bien d'autres parallèles. Alors, bon, pourquoi pas le baptême, hein ? On est sauvé par Jésus-Christ seul. Et le baptême, c'est quoi ? C'est juste la démonstration visible de ce qui est déjà passé dans nos cœurs. Il n'y a rien de magique dans l'eau. Elle ne sauve pas, elle ne régénère pas. Comme la circoncision qui devait refléter ce que le croyant avait dans le cœur vis-à-vis de Dieu, qu'il avait racheté, le baptême, c'est la même chose. Et puis surtout, nos sociétés modernes sacrifient à d'autres dieux. On se doit d'être performant dans tous les domaines, de s'accomplir. Quand on voit des gens qui passent à la télé, ils doivent avoir de l'humour dans leur interview, être marrant. On doit être efficace au travail, heureux dans nos vies privées, performant dans tous les domaines, obtenir une réussite sociale ou que sais-je d'autre. Il y a quelques années, il y a un publicitaire célèbre qui a dit quelqu'un qui n'a pas une Rolex à 50 ans, il n'a pas réussi sa vie. Dernièrement, notre président a parlé de ceux qui ont réussi et de ceux qui ne sont rien. Alors, je ne fais pas de politique, ce n'est pas le problème. Hein. Mais c'est quand même, ça a montré que l'identité était fondée sur la réussite sociale. D'après notre président, l'identité est fondée sur la réussite sociale. Alors, je ne fais pas de politique, hein, je ne vous dirai pas pour qui j'ai voté, ce n'est pas le problème. Mais ça va à l'encontre, et d'autres pensent pareil actuellement, ça va à l'encontre de ce que dit l'Évangile, complètement. Notre identité n'est pas sur la réussite sociale. Notre modèle principal, c'est qui ? C'est Jésus-Christ. Il a raté sa vie aux yeux des hommes. Ça a été un obscur prédicateur galiléen. La Galilée, ce n'est pas le meilleur endroit. C'est un petit peu l'endroit où C'était une province un petit peu méprisée par les gens de Jérusalem et qui est mort sur une croix, la mort la plus infâme qu'il existait à l'époque. On a lu le passage tout à l'heure, on a vu Paul. Paul, il a raté sa vie aux yeux des hommes. Paul, peut-être qu'aux yeux des pharisiens, il avait un grand avenir. C'est un gars qui avait du talent. C'était un jeune prodige, là. Il avait étudié auprès des meilleurs pharisiens de l'époque. Gamaliel, c'est dit dans un autre passage de la Bible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a raté sa vie pour Jésus-Christ. Donc réussir sa vie, qu'est-ce que c'est? Par contre, Paul, dans l'éternité, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il va hériter autre chose. Parce qu'il n'a pas le besoin de réussir, le besoin d'avoir une identité, le besoin d'être juste, comme Paul qui voulait être juste, ils n'ont pas été balayés, elles ont été remplacées par quelque chose de meilleur. Ok, on va voir au verset 4 et 8, dont on l'a vu un petit peu là, Paul il déroule son CV, il est humainement impressionnant pour l'époque. Hein. Chaque époque a ce qui fait sa fierté, nous à notre époque, ça ne va pas être ça. Hein. Notre époque, c'est être un grand homme d'affaires, un grand artiste, quelqu'un qui passe à la télé, un grand sportif. Du temps de l'époque de Paul, être un enseignant renommé, un religieux qui a de l'importance, vouloir plaire à Dieu, c'est quelque chose qui, dans la société d'Israël, ça faisait écho. C'est quelqu'un qui aurait pu avoir une carrière importante, Paul. Ok ? Circoncis le huitième jour, israélite de naissance, pas un juif adopté, pas un prosélyte. De la tribu de Benjamin, quand le royaume de Salomon s'est séparé en deux, quand Dieu a séparé le royaume en deux, ben la tribu de Benjamin elle est restée fidèle à la dynastie de David. Elle est restée fidèle au royaume de Juda. Donc c'est une tribu estimée chez les juifs de l'époque de Paul. Il avait un très grand pédigré, Paul. Ça faisait pas rire. C'est un pharisien, dont un homme estimé quand c'est sa connaissance de la loi. Un homme dont la vie comptait. Et son zèle l'avait même conduit à persécuter l'Église en croyant être fidèle à Dieu. Bon, il se fourvoyait. Mais voilà, toutes ces choses, cette fierté nationale, cette appartenance, un parti zélé pour la loi, cette excellence dans le respect de la loi, cela constituait un gain aux yeux de Paul. Cela constituait sa fierté. Il pensait pouvoir s'approcher de Dieu sur ses bases. On va relire les versets 7 à 9 de Philippiens. Philippiens 3, versets 7 à 9. Toutes ces choses constituent à mes yeux un gain. Mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner le Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient, que Dieu accorde. Donc on voit que tout le vocabulaire de ces versets montre qu'il a rencontré Christ. Paul considère ce qui faisait sa fierté avant comme une perte. Dans certaines traductions, il y a comme des ordures, comme des rebuts en comparaison de Jésus-Christ. Il a trouvé la perle de grand prix et a vendu tout le reste pour l'acquérir. Ça, on trouve ça dans Matthieu 13, verset 45-46. C'est ce qui se passait dans la vie de Paul. Paul renonce pour acquérir. Mais ce qu'il va acquérir est tellement plus précieux que ce à quoi il a renoncé qu'on ne sent pas de notion de sacrifice dans ce passage, mais plutôt de désir et de joie pour le Seigneur. La joie est plus forte que le sacrifice. Et au verset 9, je relis le verset 9, mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Donc le désir d'être trouvé juste devant Dieu qu'avait Paul quand il présentait son curriculum vitae là, tout à l'heure, quand il cherchait dans son passé à exceller dans la pratique de la loi, eh bien ce désir-là, il n'est pas mis de côté, il n'est pas mis aux oubliettes. Il est rencontré de manière suprême, totale et excellente en Jésus-Christ. Paul désirait la justice, désirait être juste devant Dieu, il en acquiert une plus que parfaite, celle de Jésus-Christ, lui-même, qui lui est donnée par la foi. Il ne se confie plus en lui-même, dans ses œuvres, mais dans un autre, dans les œuvres de celui qui a tout accompli, en qui le Père a trouvé tout son plaisir, il obtient la justice parfaite de Jésus-Christ. Donc son désir n'est pas mis de côté, il est rencontré de manière meilleure. Pareil pour son désir d'appartenance. Il était juif, il en avait une fierté, Mais en fait, le Seigneur veut dire, mais il y a mieux que ça. Comme nous, avant d'être... Si on est chrétien, si on a été saisi par Jésus-Christ, avant d'être français, avant d'être ivoirienne, avant d'être marocain, avant d'être quoi que ce soit, du Togo, de tous les pays, je cite des pays parce que je vois des gens, on est chrétien, on est citoyen des cieux. Notre identité n'est pas niée, elle existe encore. On vit dans la réalité. Mais au-delà de tout cela, ce qui est le plus important, c'est notre identité en Jésus-Christ. Et là, je ne l'ai pas lu, mais si on va plus loin, verset 20, chapitre 3, « Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Quand Jésus-Christ reviendra, nous allons hériter la terre. C'est bien mieux que d'être français, juif ou quoi que ce soit. » Dans notre passage, on voit que Paul ne nie pas son identité, mais il dit qu'elle est secondaire par rapport à son identité principale qu'il trouve en Jésus-Christ. Donc on voit, si on revient au verset 9, que le sens de la justice de Paul est satisfait, car il est plus juste grâce à Jésus-Christ qu'il ne l'a jamais été. Il est parfaitement juste alors qu'avant il ne l'était pas, tout simplement. Bon, évidemment, c'est notre expérience à nous, hein. Comme je disais tout à l'heure, je parle de Paul, mais c'est l'expérience de tout croyant en Jésus-Christ, de tout chrétien. Dieu ne nous accepte pas en fermant les yeux sur nos péchés. Il nous rend parfaitement juste à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. À cause de ce que je fais, que Jésus-Christ a payé pour nous, bien, la condamnation a été subie une fois pour toutes, c'est fini. Jésus-Christ a pris ma condamnation, il m'a donné sa justice. Il y a eu un échange joyeux, comme je dis tout à l'heure. Dieu a le droit, légalement, de nous faire grâce. C'est légal, c'est objectif. C'est par rapport à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Je ne me présente pas devant Dieu parce que je sens son amour ou parce que j'ai eu une bonne journée, mais parce que je suis juste revêtu de la justice de Jésus-Christ. Pareillement, si j'ai passé une mauvaise journée, je ne sais pas moi, si j'ai pensé du mal de mes voisins, de mes collègues de travail, si je me suis énervé en voiture, si j'ai eu des pensées de jalousie, des pensées impures, qu'importe, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Si j'ai échoué, je peux m'approcher de Dieu sur la base de ce qu'il a payé pour moi, ce que Jésus-Christ a payé pour moi à la croix. 1 Jean 1, 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Il est fidèle et juste. Dieu est fidèle à son alliance, à ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Et il reste juste en nous pardonnant, parce que Jésus-Christ a payé pour nous. Et il serait injuste s'il nous reprochait quelque chose qui est déjà payé. Ça y est, c'est acquitté. C'est ça la base de notre vie chrétienne. C'est ça qui fait que nous pouvons avoir communion avec Jésus-Christ. C'est ça qui fait que nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu, du Saint-Saint à tout moment. Alors qu'avant, c'était le grand prêtre une seule fois par an. Et c'était imparfait. Lui-même devait offrir des sacrifices pour son propre péché. On est vraiment passé dans autre chose. On est passé dans un salut bien plus glorieux, quoi. Ce n'est que la préparation. On est rentré. Réalisons ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Je vais finir. Je vais vous raconter une histoire. Hein. On approche de la fin du message. Mais vous connaissez peut-être l'histoire d'un peintre célèbre. Je l'ai entendu, je ne sais plus qui c'est ce peintre, si c'est une histoire vraie ou pas. C'est un peintre célèbre qui voyait un vagabond dans la rue Lacoste, il lui donne de l'argent, en lui disant ben, « Venez demain à telle adresse, j'aimerais vous peindre. » Donc le vagabond, il se retrouve avec son billet de banque dans la main, et puis donc il décide d'aller chez le barbier, de s'acheter un beau costume, et puis le lendemain, il se rend à l'adresse que le peintre lui a indiquée, se disant « Mais en plus, je vais être encore plus payé maintenant. » Puis le peintre, au début, il lui dit « il ne reconnaît même pas, il dit « Mais qui vous êtes ?» Je suis le vagabond qui vous avait donné des sous hier. Et le peintre regarde, mais mon bon ami, c'est pas. Moi, je voulais peindre celui que j'ai vu hier, pas celui-là. Et dans l'évangile, c'est la même chose. Si nous essayons de venir à Jésus avec nos œuvres, revêtus de nos œuvres, revêtus de notre justice, ça ne va pas aller, quoi. Venons à Jésus-Christ tel que nous sommes et laissons-le nous revêtir de sa justice. Ça, c'est pour rencontrer le Seigneur pour se convertir. Et toute notre vie chrétienne, c'est la même chose. L'évangile, ça commence au début de notre vie, mais toute notre vie, c'est l'évangile. C'est pour la liberté que Christ nous a franchie. C'est pas pour autre chose. Ça ne peut pas fonctionner autrement. On ne peut pas s'approcher avec nos œuvres devant Dieu. On n'est vraiment pas à la hauteur. Donc la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle finalement, c'est que on n'a pas à tirer notre identité de ce que nous faisons, mais nous la tirons de ce qu'il a fait pour nous, et non pas de ce que nous essayons de produire par nous-mêmes. Et plus nous réaliserons que nous sommes juste en Jésus-Christ, plus nous ferons les choses par reconnaissance de ce qu'il a sauvé, de ce qu'il a fait pour nous. Et nous ferons les choses librement. Quand est-ce qu'on est le plus libre dans la vie? C'est quand on aime. Si vous fréquentez, que vous êtes fiancé, ou si vous aimez quelqu'un, enfin, qu'importe, la personne va vous demander quelque chose, si vous l'aimez, ça va être avec joie que vous allez le faire. C'est la vraie liberté qui découle de l'amour. L'amour est une reconnaissance en ce qui nous a aimé le premier et nous l'aimons. Par contre, si nous oublions cela, ben nos œuvres seront plus ou moins inconsciemment faites pour gagner l'approbation des autres ou l'approbation de Dieu. Donc, encourageons-nous les uns les autres à plonger dans les vérités de l'Évangile, de la bonne nouvelle, afin que nous soyons réellement libres, parce que Jésus-Christ nous a affranchis, afin que nous demeurions libres. Amen. Prions. Ben, Seigneur Jésus, je voudrais te remercier de ce que tu as toi accompli pour nous. Je voudrais te remercier, Seigneur, pour ton évangile glorieux. Merci de tout ce que tu as fait pour nous et merci que tu as tout pourvu, Seigneur. Merci de nous travailler le cœur de ton évangile. Merci de nous le rendre toujours plus présent, toujours plus vivant, toujours plus concret, afin qu'il nous affecte dans tous les domaines de nos vies. Merci, parce que ça aussi c'est une grâce et que tu travailles dans mon cœur. Merci pour ton Saint-Esprit pour nous, Seigneur. Amen.
Waouh. L'évangile est révolutionnaire, vous trouvez pas? Hein? Ça, c'est la vraie révolution. Et alors qu'on va se souvenir maintenant, passer au temps de Sainte-Seine, et en lien directement avec ce que Christophe nous a partagé, Jésus nous a montré l'exemple. Quel exemple de dépouillement, quel exemple d'humilité. Et dans Philippiens 2,5, puisqu'on a beaucoup été dans l'épître aux Philippiens, on voit un double dépouillement. Un dépouillement parmi les hommes. Jésus est venu parmi les hommes, premier dépouillement. Et un deuxième dépouillement en allant à la croix. Christophe nous a rappelé que c'était la condamnation la plus infâme. Waouh. Et je vous propose qu'on lise ce passage. Et pendant qu'on lit le passage, j'aimerais que les personnes qui ont été choisies pour la distribution de la Sainte-Seine, on va changer un petit peu, excusez-moi, mais c'est un peu du dernier moment. J'aimerais qu'on prenne la table et qu'on l'amène au milieu, là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Philippiens 2,5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Premier dépouillement. En devenant semblable aux hommes. Premier dépouillement. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Deuxième dépouillement. Et je vous propose, comme Christophe nous a invités tout à l'heure, de venir à Jésus tel que nous sommes. Et c'est pour ça que je voulais que la table elle soit là, tout simplement parce qu'on va venir ce matin. On va pas se laisser servir, on va venir d'un acte volontaire, on va venir prendre le pain et le vin, on va venir tel que nous sommes ce matin, devant Jésus, parce qu'il a tout accompli. Et pendant un beau chant, on va venir devant le Seigneur qui s'est lui-même dépouillé, et on va lui demander, Seigneur, montre-nous comment nous pouvons vivre, nous pouvons t'imiter. Amen.
Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
Tu déchires le voile,
tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli.
Tu déchires le voile,
tu traces un chemin, car tu as tout accompli.
Tu déchires le voile,
tu traces un chemin, car tu as tout accompli.
À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand.
Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
Tu déchires le voile,
tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. C'est tout. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Si je que tu m'aimes,
je sais,
je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
Tu déchires le voile,
tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile,
tu traces un chemin,
car tu as tout accompli.
Tu déchires le voile,
tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu fléchir le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli.
À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Je te louerai, Seigneur.
Je te louerai, Seigneur.
Chanterai ton grand amour.
Chanterai ton grand amour.
Tu montreras ta part. Et nous verrons ta gloire. Cherche le tien, que je sois pour toi un sacrifice, et je te louerai, Seigneur.
Je te louerai, Seigneur.
Je chanterai ton grand amour.
Je chanterai ton grand amour.
Je montrerai ta
face. Oui, ta face.
Et nous
Amen. Amen. Merci Seigneur. On aimerait bien rester 1000 ans, hein ? C'est comme un jour. Voilà. Olivier a répondu. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à un temps non moins important, le temps des annonces, parce que oui, même l'été, il y a des annonces. Alors, une annonce importante qu'on redit chaque semaine, mais qui est super importante, c'est le ménage. Donc on est vraiment ouvert à toute bonne volonté pour les vacances, il n'y a pas d'équipe fixe. Donc si vous avez à cœur de donner un peu de votre temps et de venir nettoyer lundi matin, plutôt Marc, c'est ça? Et d'ailleurs, on va demander à Marc de se lever, s'il vous plaît. Pourquoi? On a beaucoup applaudi ce matin, mais je voudrais qu'on applaudisse Marc, qu'on fasse une big ovation à Marc. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que ménage n'égale pas forcément Marc, hein. Marc, il a un esprit d'accueil, et on est tous au bénéfice de ce sourire du matin, de ce café du matin, de tout ce qui, de ce climat ici. Et vraiment, on doit être reconnaissant parce que Marc est un trésor pour chacun de nous. Voilà. Et c'était important de le dire et de le redire. Et Annie, évidemment. Annie, elle est où? Parce que je ne voyais pas Annie. Mais évidemment, tout ça, c'est, ils ne feront qu'un. Hein, donc Annie est pleinement... Mais comme je ne la voyais pas, c'est vrai que j'ai visé Marc. Ok, les féministes, ok. Merci beaucoup, Marc. Alors, je voudrais qu'on écoute Roselyne, qui va nous donner des nouvelles de Stéphane. Figurez-vous que Stéphane est parti en Tunisie. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques nouvelles?
Stéphane est bien arrivé, il va bien, il fait 49 degrés là-bas, il fait chaud. Du coup, il ne mange pas le midi, parce que sinon, ce n'est pas possible. Voilà, tout va bien. Voilà.
Et donc, d'après ce que j'ai compris, donc, il a un rythme, 3 semaines, 1 semaine chez nous. On le reverra?
Un mois.
On le revoit quand? Bon, le 11 septembre, date tristement célèbre, mais on reverra Stéphane le 11 septembre. Donc voilà. Merci beaucoup, Rosie. Et on pense à Stéphane. Je voudrais Isabelle maintenant, qui a une annonce à nous faire quant à la bibliothèque.
Alors, comme vous avez pu le voir, la bibliothèque est fermée depuis bientôt 1 an. En fait, parce qu'il y a eu une interrogation à savoir si on se débarrassait de tous les livres, puisque personne ne les empruntait, ou si on maintenait la bibliothèque. Et puis, au cours de l'année, donc j'ai fait l'inventaire de la bibliothèque. Au cours de l'année, des gens sont venus à moi pour me demander des livres. Donc, j'ai compris qu'il y avait un besoin. J'ai fait un appel une fois pour que vous puissiez vous débarrasser de ce qu'il y a chez vous et alimenter un peu plus parce qu'il y avait des choses un peu obsolètes. Et puis, en fait, personne n'a apporté de livre. Alors, j'en conclus que vous ne devez pas lire chez vous. Mais j'ai quand même alimenté... grâce à Jean-Luc Cosnard, j'ai pu récupérer 100 de livres chez lui. Moi, j'en ai apporté 50 encore en plus. Et j'en apporte régulièrement. Donc, quand vous lisez un livre, de toute façon, vous allez le mettre sur l'étagère et vous ne le relirez pas 2 fois. Apportez-le ici. Qui profite aux autres. C'est, ou faites un tri chez vous, parce que je suis sûre que vous avez des tas de livres. Donc là, maintenant, il y a à peu près 300 livres à emprunter. La bibliothèque va réouvrir à partir de septembre, et ce sera uniquement les jours où il y a Agape. Vous vous servirez tout seul, vous remplirez le petit cahier tout seul, et vous rapporterez le livre quand vous en avez envie. Et si... je trouve que ça fait vraiment longtemps que vous l'avez, par exemple 3 mois ou 4 mois pour un seul livre, je risque de vous passer un petit coup de fil ou de vous envoyer un texto en disant est-ce que tu veux le garder, est-ce que tu l'as lu, est-ce que tu l'as oublié, mais si vous voulez le garder, gardez-le, c'est pas un problème. De toute façon, c'est la bibliothèque du Seigneur, donc on apporte, Dieu nous donne, on dépose, on reprend, voilà, sentez-vous libre. Alors sentez-vous libre là de faire un tri et d'apporter tout ce qui ne sert à rien chez vous. Je récupère et on va numéroter, on va mettre encore. Parce qu'il en faut encore. Il faut qu'on ait vraiment un grand choix. Voilà.
Merci beaucoup pour cette œuvre prise en main, c'est super. Donc on trie, on rapporte. Septembre, la bibliothèque ouvre et elle sera ouverte à chaque agape. Ok, pour les infos importantes. Alors, dans cette bibliothèque, ça tombe bien, on a à cœur, la commission Louange, d'ouvrir un stand un peu musique, avec des albums. Vous savez que l'année 2017 est quand même assez productive, il y a eu pas mal d'albums. Hein, et d'ailleurs, moi, je vous remercie à titre personnel d'avoir soutenu Melody of My Soul. Et là, on a le dernier né, Forgé, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le titre, je suis pas un slammer, c'est « Je t'aime ». Il n'y a pas une faute d'orthographe, non, c'est vraiment ça. Donc, il est à votre disposition dès aujourd'hui, Sylvie, on a un petit stock là, au prix de 10 euros, je crois. Donc voilà, c'est une manière de soutenir les artistes de l'Église. Et vous savez qu'on a fortement à cœur les développements, les productions d'œuvres musicales et autres. Donc voilà l'occasion de soutenir très concrètement le dernier-né, Je t'aime de Forger. Alors Forger, juste pour préciser, on a de l'église Jérémy Morin, Marie Gasnier, enfin Marie Garcia, pardon. Pardon Norbert. Et de l'église, je crois que c'est tout. Et après, il y a Mathias Courbeau, il y a Adelin, qu'on connaît, sont des gens proches de l'église. Voilà. Et mon iPad vient de se décharger pour le reste des annonces. Alors, chose importante, week-end de Gagnères. Voilà, week-end de Gagnères. Vous savez qu'on a à cœur le dernier week-end d'août, le 31 jusqu'au 3 août, de se retrouver tous ensemble. Donc il n'y aura pas de culte ici, attention, hein, le dimanche 2. Le 3, c'est bien ce que j'ai dit, le 3. Donc le dimanche 3 septembre, nous n'aurons pas de culte ici, on se retrouve tous à la montagne. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, il est encore temps de le faire, ne vous inquiétez pas. Norbert va envoyer au nom de communication CMLK le lien.